Chers bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui des fondations de l'Église, notre troisième leçon sur ce sujet. La contribution de Paul à l'Église chrétienne primitive est cruciale. On pourrait même se demander ce qu'aurait été l'Église sans l'effort de Paul de la sortir du contrôle du judaïsme. Paul a vu clairement qu'aucun autre que la nouvelle foi ne pouvait être confinée dans les limites du judaïsme. Il avait alors parlé du mystère que Dieu lui avait donné de déclarer au monde. Ce mystère, c'était que l'évangile de Jésus était pour tous les peuples de la terre. Paul était donc un homme aux dons multiples, évangéliste, enseignant, ouvrier, faiseur de miracles, prophète, écrivain. Beaucoup d'écrits du Nouveau Testament viennent de la plume de Paul, théologien, stratège du royaume, visionnaire qui a vu que l'évangile devait être exempt des exigences rituelles juives, comme la circoncision et l'observance des lois alimentaires, s'il voulait pénétrer les autres peuples du monde romain. Ce n'est pas longtemps après la mort de Paul que les chrétiens avaient commencé à comprendre plus clairement qu'ils étaient une communauté distincte du judaïsme. Pourtant, en même temps, l'Église se considérait toujours comme le véritable Israël et l'héritier de l'alliance de Dieu faite à Israël. Une étape importante dans cette transition peut être vue dans les événements liés à la révolte juive contre les Romains en l'an 66 après Jésus-Christ. Eusèbe, le premier grand historien de l'Église, écrivant au début du IVe siècle, rapporte que les chrétiens de Jérusalem étaient continuellement harcelés par les Juifs et beaucoup avaient quitté Jérusalem. Lorsque la révolte juive a éclaté, les chrétiens restants n'ont pas résisté avec les Juifs, mais ont fui vers la ville de Pella, une ville en Transjordanie. Et en 70 après Jésus-Christ, les forces romaines conduites par Titus, fils de l'empereur, attaquèrent et capturèrent Jérusalem et détruisirent le temple. Aujourd'hui, il n'y a que des restes comme le mur occidental ou le mur des Lamentations, considérés comme le site le plus sacré du judaïsme. En outre, une bande de zélotes juifs avait échappé et s'était réfugiée dans la forteresse naturelle offerte à Masada. Mais les deux mains de l'an 73 après Jésus-Christ, les juifs barricadés à Masada, un millier s'étaient suicidés pour éviter de tomber entre les mains des forces romaines. L'échec de la révolte juive et la destruction du temple étaient des désastres majeurs pour le peuple juif. Néanmoins, ils ont toutefois réorganisé leur vie religieuse autour de la Torah, la loi juive. Le fossé entre les chrétiens et les juifs ne s'est approfondi que lorsque les centres du mouvement chrétien s'étaient déplacés vers d'autres villes au-delà de Jérusalem. À la fin du siècle, du premier siècle, les juifs avaient même exclu les chrétiens des synagogues en changeant leur prière liturgique au point d'ajouter une malédiction contre les hérétiques juifs. Après la mort des apôtres, la mission a continué par leurs disciples et associés, mais nous ne trouvons plus de missionnaires de la stature et de l'efficacité de l'apôtre Paul. En fait, nous n'avons pas beaucoup de documents pour nous dire comment la foi chrétienne s'est répandue dans les premiers siècles après la mort des apôtres ou par qui elle s'est répandue. Rappelons-nous que jusqu'en l'an 312, l'Église avait été considérée comme un groupe illégal. Elle était considérée comme une secte juive, ennemie de l'Empire romain. Étant illégale, l'Église primitive ne célébrait pas ses héros, elle ne leur construisait pas de monuments comme de nos jours. Néanmoins, malgré les persécutions, la foi chrétienne s'était répandue comme un feu de brousse, faisant son chemin à travers tout l'Empire romain. Arrêtons-nous maintenant et pensons à la réalité de l'Église dans son premier contexte, dans son contexte primitif. Un groupe de gens du peuple, sans éducation, habitant dans un coin éloigné d'un puissant royaume, empire plutôt, un groupe considéré comme une petite secte du judaïsme. Et les Juifs n'étaient pas bien aimés à travers l'Empire. Mais ce groupe cherche à gagner le monde entier avec leur nouvelle foi. Ils prêchent la soumission à celui qui est mort de la mort d'un criminel, ce qui est assez étrange. Mais ils affirment aussi que celui-ci est ressuscité d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui par son Saint-Esprit. Le monde dans lequel ils sont si audacieux à parler est imprégné d'une loyauté féroce envers les traditions héritées et les religions locales. Et ce n'était pas comme si les chrétiens demandaient au monde de leur créer de l'espace pour une nouvelle déité. En effet, les Romains étaient très tolérants. Ils auraient accueilli Jésus comme un dieu additionnel de leur panthéon. Non, les chrétiens affirmaient que Jésus était le seul vrai Dieu et que tous les humains, sans exception, devraient l'accueillir par la repentance et à la foi comme étant le seul Seigneur du ciel et de la terre. Ils étaient imbibés d'une conviction inébranlable que Jésus était le Seigneur et qu'ils avaient le devoir d'apporter son évangile dans le monde entier. L'historien chrétien Hésiode, écrivant au 4e siècle à Césarée, prétendait que Dieu avait providentiellement préparé l'Empire romain et le cadre culturel qu'il a fourni pour la diffusion de l'Évangile. Et même plus tôt, le théologien Tertullien a vu l'Empire et l'Empereur comme des agents de Dieu pour préserver la société. Il a fait cette affirmation surprenante en l'an 2000. Nous devons respecter l'Empereur comme l'élu de notre Seigneur. J'ai donc le droit de dire que César est plus à nous que le vôtre, désigné comme il est par notre Dieu. Le chrétien avait profité des temps et conditions favorables offertes par l'Empire romain pour répandre l'Évangile rapidement à travers tout le monde de leur époque. Au cours de leurs 300 premières années, une présence a été établie dans la plupart des régions de l'Empire et à travers toutes les classes et les frontières sociales. Dans notre prochain programme, nous examinerons de près la propagation de la foi dans le monde et la société romaine.